Des reportages inédits,
des chroniques fantastiques,
de l'actualité et de la bonne musique.
Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, sur Radio Far West.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien.
Moi, en tout cas, ça va super bien. Et toi, Lucas, ça va? Pas trop triste d'enregistrer la dernière émission?
Alors déjà, oui, ça va très très bien. Et oui, c'est tellement triste, c'est passé tellement vite tout ça.
Ouais, effectivement. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous présenter?
Alors, on va commencer comme d'habitude par quelques infos d'actualité pour rester à la plage.
À la page, non? Tu voulais dire, peut-être.
Excusez-moi.
Exactement. Ensuite, on va écouter le dernier épisode de la chronique de Layla. Puis, elle va nous parler d'immigration avec la deuxième et dernière partie de son reportage sur les migrants MNA.
Et oui, dernière partie du dernier reportage. Et pour finir, je vais vous présenter également le dernier épisode de ma chronique suivie, qui parle de...
Sport, bien sûr.
Wow. Bien vu, Mathéo. Bon, on commence?
Oui. Alors, les actus, elles sont mes feuilles.
T'es sérieux? Ouvre tes yeux, elles sont juste là.
Ah oui, merci. Excuse-moi. Alors...
Bon, tu fais attendre tout le monde, là.
Attends, c'est bon, je suis prêt.
Ah, pas trop tôt. Alors, aujourd'hui, on parle grève, tout d'abord.
Une grève massive du personnel de cabine de Lufthansa provoque une annulation de 1300 vols qui affectera 180 000 passagers.
La grève a commencé jeudi à minuit et se terminera 48 heures plus tard. Le syndicat a expliqué que le mouvement a été enclenché à cause du refus persistant de Lufthansa de négocier sur certaines revendications.
Cependant, la compagnie a offert à ses passagers le droit de réserver sans délai et gratuitement un vol sur une autre compagnie du groupe dans les 10 jours qui suivent.
Et oui, on est heureux d'être à l'école et pas bloqué par cette grève. Et on souhaite bonne chance à tous ceux qui sont affectés par celle-ci.
Parlons migrants maintenant. De Caen, situé dans le nord-est de Paris, près du périphérique, accueillait entre 600 et 1200 personnes qui vivaient dans des tentes.
Ce camp a été évacué jeudi. Les personnes qui y vivaient ont été amenées en bus vers des gymnases ou des centres d'accueil.
Les zones étaient devenues incontrôlables, d'après les autorités.
Les camps abritaient de nombreux Afghans, des personnes originaires d'Afrique subsaharienne et des familles avec enfants.
Je ne peux pas laisser une situation de danger de cette nature, non seulement pour les gens qui s'installent sur ces bas-côtés, mais également pour les automobilistes. Tout ça ne peut plus durer. Et c'est le sens de la fermeté dont je vous parle, a expliqué sur place à la presse le préfet de police de Paris, Didier Lallement.
Le maire de Paris, Anne Hidalgo, qui était présente, a rappelé qu'il s'agissait de la 59e mise à l'abri depuis l'été 2015. Il est clair pour que cela ne se reproduise plus, qu'il faut un dispositif d'accueil adapté et digne, a-t-elle réclamé.
En France, moins d'un demandeur d'asile sur deux est hébergé par l'État. Heureusement, comme va nous le dire plus tard Léla, ce n'est pas le cas pour les mineurs non accompagnés en Suisse.
Effectivement. Sinon, Mathéo, tu sais ce qui se passe ce week-end en Suisse?
Bien sûr, c'est le deuxième tour des élections fédérales.
Exactement. On vote ce dimanche pour le Conseil des États, qui est constitué des deux élus par canton.
Ah ouais, tu votes toi?
Alors, oui, et d'ailleurs, j'invite tout le monde à voter, et surtout à voter correctement, bien sûr.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Eh bien, figure-toi qu'il y a encore des gens qui ne savent pas voter.
Sérieusement?
Eh oui, dans la commune de Tolochna, dans le canton de Vaud, 7,3% des bulletins ont été invalidés car des personnes se sont trompées dans la manière de voter.
Ah, quand même. C'est assez un problème, effectivement. Tu veux pas nous faire un petit cours de votation, comme ça au moins nos auditeurs vont pas se tromper, eux?
Alors, si tu veux... Alors, vous avez normalement reçu une lettre à votre nom. Vous ouvrez délicatement cette lettre. Faites attention car c'est cette lettre qui va vous servir à renvoyer votre vote. Ensuite, vous détachez votre carte de vote. Vous signez et écrivez votre date de naissance. Vous attachez la liste de votre choix et vous la placez dans l'enveloppe jaune. Puis, vous mettez votre carte de vote plus l'enveloppe jaune séparée dans la lettre de base. Vous la fermez et voilà, votre vote est prêt.
Super, merci Lucas. Je t'avoue que c'est la première fois que j'entends une façon de présenter comment voter.
Bien sûr.
Bon, c'était tout pour les actus. On va maintenant laisser la parole à Layla et sa chronique.
Et oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de nouveau de drag dans le quatrième et dernier épisode de ma chronique. J'espère que vous êtes prêts. Alors, je vous rappelle que durant le premier épisode, on a été chercher des conseils de drag qui sont en ligne, à la portée de tous. Dans le second, j'ai été interviewer quelques gymnasiens pour avoir leurs conseils. Et dans le troisième, on a écouté un coach en séduction. Dans cette quatrième partie, je vous propose de tester certains des conseils présentés auparavant. Je suis donc à nouveau allée dans les couloirs du gymnase pour enregistrer la réaction de certaines personnes à mes techniques de drag. On écoute à tout de suite et on commente juste après.
Salut, t'es pas mal! Je suis pressée, mais tiens, je te file mon numéro.
Oh, je te jure, le TM, ça me prend trop la tête, ça prend trop de temps et tout, je suis trop en galère.
Ouais,
mais genre, je dois trop taffer hier, j'ai passé tout mon temps et tout. Je pense que toi, t'es une personne qui aime bien qu'on lui porte attention.
Qu'est-ce qui te fait dire ça, genre?
Parce que j'aime bien ce choix, c'est... Oh, bref, on s'en fout. Ouais. Du coup, genre, mon TM, ouais. Tellement galère et tout, genre... C'est trop de temps, genre.
Et tu voulais me dire quoi, là?
On t'a jamais appris à pas interrompre les gens, t'es sérieuse? Bref, du coup, ouais. Genre, ça va toi le TM, toi tu gères un peu?
Ça va, j'ai encore du temps, okay. Tu vois, j'ai jusqu'à janvier pour le film.
Et Lucas, j'ai à boire, t'es chaud, on boit ensemble. On fait connaissance et je sais pas, plus, y a affinité.
Peut-être pas maintenant.
Et je t'ai aperçu de loin, je me suis dit que le courant il pouvait bien passer entre nous, ça te dit, on fait connaissance?
Non, désolé, on est de même charge, alors on se repousse.
Bon, comme vous l'avez constaté, je me suis pris quelques vents. Donc juste pour vous éclairer un peu plus, pour la première personne que je lui ai donné mon numéro en passant et en prétextant être pressée. La personne ne m'a jamais rappelé. Pour la deuxième, j'ai raconté une histoire, ou plutôt ma vie, et j'ai testé une des techniques que j'avais trouvées sur internet durant le premier épisode. Elle consistait à attirer l'attention de notre interlocuteur en entrecoupant notre histoire par des petites phrases qui intriguent la personne. Si vous voulez savoir dans les détails comment ça fonctionne, je vous invite à aller écouter le premier épisode qui était présent dans notre première émission. Malheureusement, donc, dans mon cas, cette technique n'a pas marché. Et la quatrième technique, pour la troisième et la quatrième technique, je me suis inspirée des conseils des gymnasiens en proposant à boire à quelqu'un pour entamer une discussion. Là encore, ça n'a pas fonctionné. Et pour la dernière, j'ai tenté d'entamer une discussion en allant au feeling, une tentative qui a échoué. En plus, la personne m'a répondu avec une répartie claquante. Bon, voilà, c'était tout pour ma chronique. J'espère que vous aura fait rire. C'était un des buts. Et qu'elle vous aura également appris quelques petites choses. On va tout de suite écouter un titre des Beatles qui s'appelle « Here Comes the Sun ».
Sun, here we come.
retrouve après cette courte pause musicale pour parler migrants, et plus spécialement migrants mineurs non accompagnés.
Oui, et pour commencer, tu peux nous rappeler ce que tu nous as dit la semaine passée, pour pas qu'on soit perdu.
Évidemment. Alors, d'abord, je vous invite à aller écouter la première partie de mon reportage sur notre blog sur radiobus.fm si ce n'est pas déjà fait. On avait parlé de l'arrivée des migrants MNA en Suisse. Je le rappelle, MNA, c'est l'abréviation de mineurs non accompagnés. Je vous avais introduit le sujet en vous expliquant que c'est une situation très particulière, mais pas si peu commune qu'on pourrait le croire. Je vous ai exposé des chiffres assez parlants, et puis je vous ai parlé de l'origine de cette appellation MNA. On a également commencé à parler de la procédure de demande d'asile pour ces jeunes, durant laquelle leur statut est en permanence pris en compte. Je vous ai expliqué que ça leur permettait d'obtenir certains privilèges, comme celui de pouvoir rejoindre leur famille.
Et aujourd'hui, on va parler de quoi, dis-moi ?
Alors, on va commencer tout de suite par comparer les droits et les devoirs des migrants MNA. J'ai trouvé sur le site enfants-migrants.ch un site de l'Alliance pour les droits des enfants migrants, donc l'ADEME, dans une section dédiée aux enfants et aux jeunes arrivés en Suisse. Une liste de droits et de devoirs que je vais vous lire. Donc ces droits, ils sont basés sur la Convention internationale des droits de l'enfant. D'abord, comme je l'ai dit la semaine passée, les enfants ont le droit à un représentant légal qui les aide, les conseille et défend leurs intérêts. La semaine passée, j'avais appelé ces personnes des personnes de confiance. Tu t'en souviens, Jade ?
Oui, cette personne est d'une certaine façon un parent de remplacement, c'est ça ?
Alors presque, car elle remplit certaines fonctions que les parents remplissent dans le cas où ils sont présents, mais la personne de confiance ne prend pas la place du parent.
Ok.
Ensuite, donc l'enfant a le droit d'être scolarisé dans une école primaire ou secondaire.
L'école obligatoire quoi ?
Exactement. Concernant la santé, l'enfant a le droit d'être soigné en cas de problème.
Ça me paraît évident.
Moi aussi. Bon, sinon, il a le droit d'être informé des procédures qui le concernent, comme l'évaluation de l'âge dont je vous ai parlé durant la première partie de mon reportage. Il a également le droit de s'exprimer son opinion sur les décisions à propos de lui-même.
Ça aussi, ça me paraît évident.
Ensuite, il a le droit de prendre contact avec sa famille et aussi d'avoir accès à des loisirs.
Et concernant les devoirs ?
J'y viens. Alors tout d'abord, l'enfant doit respecter les règles de foyer dans lesquelles il vit.
Le foyer ?
Oui, je vous en parlerai plus tard. Donc ensuite, l'enfant doit collaborer avec les services qui s'occupent de lui, notamment dans le cadre de la procédure d'asile. C'est-à-dire qu'il doit être impliqué et pas juste attendre que les choses soient faites pour lui.
Et j'imagine qu'il a aussi le devoir de respecter les lois suisses.
Effectivement, comme tout citoyen d'ailleurs. Et aussi le devoir de respecter les règles de vie en société. De la vie en société, pardon.
Bon, c'est moi ou presque toutes ces règles sont évidentes ?
Non, c'est vrai qu'elles le sont pour nous. Mais imagine pour quelqu'un qui arrive d'un pays où tout est différent, où tu peux difficilement accéder à des soins, où les opinions du peuple ne sont pas prises en compte.
Ah ouais, c'est vrai que dans ce contexte, tout n'est pas forcément évident. Et tu nous as dit que toutes ces infos sont accessibles sur Internet, non ?
Oui, sur le site enfants-migrants.ch, il y a plein d'informations intéressantes pour les enfants migrants. Il y a plusieurs sections, une pour les jeunes, une pour les professionnels, etc. J'ai trouvé ça super intéressant.
Et du coup, les MNA qui arrivent en Suisse, est-ce qu'ils peuvent être bien informés grâce à ce site, non ?
Oui, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça super cool. Si t'es un enfant migrant, tu peux apprendre plein de trucs sur ta situation. En tout cas, c'est super facilement accessible. J'ai d'ailleurs trouvé une brochure dédiée aux migrants MNA qui a été élaborée en collaboration avec des MNA. Elle est super claire. Elle donne plein d'informations sur la vie en Suisse, la procédure d'asile, les personnes de soutien, les droits, etc. Si jamais tu es un MNA et que tu nous écoutes, je te conseille vraiment d'aller consulter cette brochure. Elle est vraiment bien faite. Tu peux apprendre plein de choses pour t'intégrer, par exemple. Elle explique d'ailleurs les différentes étapes de ta demande d'asile. Elle donne des conseils sur comment bien s'intégrer et préparer son avenir en Suisse. Elle explique brièvement le système d'éducation suisse. Elle met en avant le besoin d'apprendre une des langues du pays pour pouvoir communiquer avec les autorités, mais aussi avec la population. Dedans, il y a également la liste des droits et devoirs que je vous ai cités plus tôt. Et j'ai d'ailleurs lu un conseil qui m'a fait un peu rire, c'est « Dis bonjour avant de t'adresser à quelqu'un et dis merci ».
J'avoue, c'est drôle.
Bon, il y a aussi une partie qui traite du retour au pays d'origine et de l'avenir, mais je vous exposerai ces sujets plus tard.
Je trouve qu'après tout, les jeunes sont bien formés et bien accompagnés.
Ouais, je trouve aussi. En vérité, je ne m'attendais pas à tout ça en commençant mes recherches. Je pensais juste trouver des articles de presse ou des lois formelles. Mais à ma grande surprise, il y a plusieurs sites faits pour aider les jeunes, comme celui de l'ADEME et de l'OSAR. Il y a également EVAM, qui est un établissement vaudois d'accueil des migrants et qui s'occupe des centres d'accueil, etc. Et avec tout ça, j'ai appris plein de trucs et j'espère vous en apprendre à mon tour aussi.
Personnellement, j'ai appris plein de choses.
Tant mieux. Et c'est pas fini.
Cool, mais ça te dit de faire une pause ?
Bien sûr. On va écouter tout de suite Boum Boum Po des Black Eyed Peas.
Got a good tip. Got a good tip. Got a good tip. Got a good tip. Boom boom boom. 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 That boom boom boom. That boom boom boom. That hit to beat the block, you can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom boom, how to beat bang.
I like that boom boom pow, them chickens jogging my style, they try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm sold 3008, you sold 2000 and late. I got that boom boom boom, that future boom boom boom. Let me get it now.
Boom boom boom, gotta get that. Boom boom boom, gotta get that. Boom boom boom, gotta get that. Boom boom boom, that boom boom boom, that boom boom boom, boom boom boom.
I'm on that supersonic boom, y'all hear that spaceship? Zoom. When I step inside the room, them girls go ape shit. Y'all stuck on super ape shit, that lo-fi stupid ape bit. I'm on that HD flat, this beat go boom. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we gotta beat that bounce. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808. That boom boom in your town.
People in the place, if you wanna get down, put your hands.
Accueil spécial pour les MNA.
Ah, ils sont pas logés dans les mêmes centres que les adultes ?
Et non, il existe des centres spécialisés. J'ai rencontré Celsius Zengyumba. Ouais, c'est ça. Le responsable de l'entité mineure non accompagnée du canton de Vaud de Lévan. Il est donc responsable de trois foyers pour MNA, celui du Chablais qui a une capacité de 42 places pour les mineurs, celui d'Entrebois, qui a, lui, entre 26 et 39 places, et le dernier est situé dans les hauteurs de Montreux et dispose de 36 places. Il m'a bien spécifié que les jeunes étaient moins nombreux qu'en 2015-2016, durant lesquels les jeunes arrivaient tous les jours et en grand nombre.
Ok, mais là, c'est le nombre de places qu'il y a. Et il y a combien de jeunes par foyer ?
C'est exactement la question que je lui ai posée. Et il m'a répondu que dans l'ordre dans lequel je les ai cités juste avant, ils étaient 14, 5 et 11 mineurs. Mais celui d'Entrebois, en plus des 5 mineurs, il y a 11 majeurs qu'ils gardent 6 mois en attendant d'être plus autonomes.
Et donc ces foyers, c'est juste un endroit où les jeunes vont dormir ?
Non, pas que. Les professionnels adultes qui y travaillent et qui encadrent les enfants sont là pour aider les jeunes à atteindre une autonomie et ils les aident jusqu'à ce qu'ils soient capables de vivre tout seuls, par exemple dans un studio, comme me l'a précisé M. Zengyumba. Il m'a dit que comme nos parents à nous qui en avons, ils leur enseignent Non, pardon. Il m'a dit que comme nos parents à nous qui en avons, qui nous enseignent tout un tas de trucs pour qu'on puisse un jour devenir indépendant, leur travail à eux, les encadrants des centres, était d'aider les jeunes à vivre une vie autonome après.
Et du coup, ils arrivent à vivre tout seuls une fois qu'ils ont eu 18 ans et ils doivent partir de ces centres spéciaux ou ça se passe comment ?
Eh bien non, pas tous.
Et dans ce cas, il se passe quoi ?
Eh bien, ils sont passés dans d'autres centres pour adultes cette fois-ci.
Et les enfants sont placés dès leur arrivée en Suisse dans ces centres ?
Non, vu que c'est la Confédération qui reçoit tout d'abord les demandes d'asile. Les jeunes sont donc logés pendant 3 mois dans les centres fédéraux, puis après ils sont envoyés dans un canton, comme celui de Vaud par exemple, où ils vont être logés dans un des 3 foyers que j'ai cités un peu plus tôt.
Et donc, il t'a parlé que de ces centres, monsieur Nzen Giyumba. Il a un nom compliqué, lui, quand même.
Ouais. Donc, non, je lui ai aussi posé des questions plus générales, comme quelles sont les raisons majoritaires des migrations.
Et du coup, qu'est-ce qu'il t'a répondu ?
Alors, il m'a dit qu'il peut y avoir plein de raisons, comme la guerre, des conflits politiques ou des problèmes économiques. Il se peut également que les jeunes ont été influencés par d'autres personnes déjà arrivées en Europe. Et donc, les jeunes pensent que leur vie va s'améliorer s'ils viennent aussi. Monsieur Nzen Giyumba m'a également parlé des raisons plus sombres, si je peux dire ça comme ça, du genre l'exploitation de mineurs. Et évidemment, ça c'est seulement quelques raisons, il peut y en avoir plein d'autres.
Pour l'école, du coup, ça se passe comment ?
Eh bien, ils vont à l'école exactement comme nous.
Et, ah, ok. Et du coup, pendant les vacances, ils restent dans les foyers ?
Eh bien, quelquefois, quand ils ont les moyens d'en organiser, ils font des camps pendant les vacances. D'ailleurs, monsieur Nzen Giyumba m'avait proposé tout d'abord de rencontrer un des animateurs d'un des centres, mais ils étaient occupés à préparer un camp d'été. Et c'est pour ça que ça n'a pas été possible.
Ah, ils n'ont pas assez d'argent pour organiser des camps à chaque vacances ?
Eh bien non, malheureusement.
Et je me pose encore une question, parce que comme tu l'as dit, ils vont à l'école obligatoire, vu qu'elle est obligatoire, mais après, ils peuvent faire des études, des apprentissages, aller à l'université ?
Oui, ce sont des jeunes, exactement comme nous, qui ont les mêmes possibilités et les mêmes choix à faire concernant leur avenir.
Et imaginons que leur demande d'asile est refusée, il se passe quoi ?
Ah, ça c'est la grande question. Eh bien, l'enfant doit quitter la Suisse. Et c'est pas le seul cas où ça peut arriver. Si une décision de non-entrée en matière est prise, ça veut dire que la demande ne fera pas l'objet d'un examen plus approfondi, ou si l'enfant n'a plus de statut légal dans ces trois cas possibles, l'enfant doit quitter la Suisse.
Et donc rentrer dans son pays ?
Normalement, oui. Il va être dirigé vers le bureau de conseil en vue du retour dans son pays.
Et donc si j'ai bien compris le but de tout ça, les gens qui les entourent, les conseils, etc., c'est l'intégration de ces jeunes dans la société suisse, non ?
Exactement, t'as tout compris.
Et c'est efficace ? Je veux dire, est-ce qu'ils arrivent à s'intégrer ?
Eh bien, je vais te parler de chiffres qui concernent tous les réfugiés entre 18 et 65 ans qui se sont vus accorder leur demande d'asile. Seuls 32% d'entre eux ont eu un contrat de travail ou une autorisation d'exercer une activité lucrative durant la 5e année après leur entrée en Suisse.
Ah ouais, c'est pas beaucoup.
Et 86% de ceux en âge de travailler sont à l'aide sociale.
C'est beaucoup, par contre.
Ouais, un petit peu. Enfin, un peu beaucoup même. La Confédération verse actuellement 6 000 francs au canton par réfugié et par personne admise à titre provisoire pour assurer leur intégration.
Il sert à quoi, cet argent ?
Il sert à proposer des stages, des formations professionnelles, des apprentissages, etc. aux réfugiés.
Ah, donc les pays participent financièrement à intégrer ces gens dans la vie professionnelle.
Exactement. Mais bon, là, on s'écarte un peu du sujet principal, les MNA. J'ai lu un article qui dit que la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales, CDAS, recommande au canton la mise en place d'un encadrement permettant un suivi socio-pédagogique des RMNA, donc réfugiés mineurs non accompagnés, qui doit pouvoir se prolonger au-delà de la majorité et idéalement jusqu'à 25 ans, moment où la jeune a achevé une première formation et acquis les capacités nécessaires pour mener une vie autonome.
C'est vrai que je trouve ça plus logique. Nous n'avons pas à être totalement autonomes à 18 ans. On a encore besoin de nos parents, d'aide financière pour nos études, tout ça, etc. Et du coup, pourquoi pas eux ?
Ouais, t'as totalement raison. Pourquoi pas eux ? Ils ont déjà vécu une situation traumatisante, des moments très durs dans leur vie. Ils devraient déjà être indépendants à 18 ans. Et c'est pas la seule injustice envers eux.
Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils endurent de plus ?
Eh bien, j'ai lu plusieurs articles plus ou moins récents qui dénonçaient certaines pratiques douteuses des autorités suisses.
C'est-à-dire ?
Eh bien, par exemple, lors de l'évaluation de l'âge, dont je vous avais parlé la semaine passée, pratique qui est quand même très controversée, il se pourrait que certains mineurs soient déclarés majeurs et se voient attribuer une date de naissance totalement arbitraire.
Et ça sert à quoi de faire ça ?
Eh bien, l'État dépense moins d'argent pour un majeur que pour un mineur, donc logiquement, il va préférer que le jeune soit déjà majeur.
Ah, quand même, c'est n'importe quoi.
Je suis totalement d'accord. Et c'est pas tout. Certains mineurs non accompagnés seraient placés en détention administrative avant leur renvoi, ce qui n'a aucun sens. Je rappelle que ce sont des enfants avant d'être des migrants.
Ouais, effectivement, c'est assez absurde. Bon, j'espère que c'est tout pour les mauvaises nouvelles.
Et désolé, Mathéo, mais non. En 2016, plein de mineurs ont été renvoyés à la frontière italienne. Ce sont les gardes frontières qui prenaient ces décisions en quelques secondes, comme ça ils décidaient de l'avenir des jeunes, juste parce qu'ils pensaient que les jeunes allaient transiter par la Suisse et non pas y demander l'asile, alors que certains pouvaient prouver qu'ils allaient rejoindre des connaissances déjà établies dans le pays.
Donc en gros, si je résume, la vie ne doit vraiment pas être facile pour ces jeunes.
Effectivement, je me vois mal vivre ça en tout cas.
Bon, je crois qu'on arrive presque à la fin de ton reportage. Dis-moi, tu vas finir par quelque chose de positif, par contre ?
Oui, on va finir sur une note beaucoup plus positive. D'ailleurs, Lucas, tu veux pas prendre la place de Mathéo ? J'ai l'impression qu'il est en train de saturer.
Ouais, je te passe le micro volontiers. Et d'ailleurs, je le vois arriver en courant. Il a l'air pressé, j'ai l'impression, Lucas.
Excusez-moi, je suis là.
Bon, j'espère que tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent vous a intéressé et vous a touché. Peut-être que certains d'entre vous voudront s'engager pour ces jeunes. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous partager quelques idées pour les aider.
Comment ça, des idées ?
Attends, laisse-moi t'expliquer. Alors, vous pouvez, en tant que famille ou couple, parrainer un MNA. Ce sera donc un jeune entre 14 et 17 ans qui pourra, grâce à vous, avoir un contact avec un environnement familial, créer des liens d'amitié et quelques repères après tous ces changements qui ont lieu dans sa vie. Vous devrez donc l'accueillir au moins 3 fois par mois pour un repas, une activité ou ce qui vous fait envie. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller consulter le site plateforme-asile.ch dans la section MNA, dans la section Action Parrainage, où vous y trouverez les informations nécessaires.
C'est bien comme idée, ça.
Je trouve aussi. Sinon, vous pouvez également trouver toute une liste de projets mis en place pour prendre contact avec des réfugiés ou pour leur venir en aide d'une certaine façon sur le site
aider-les-réfugiés.ch.
Exactement, merci.
Franchement, je trouve ça super cool qu'il y ait des trucs comme ça mis en place. Je pense que ça peut vraiment faire la différence sur quelqu'un qui va, au lieu de se renfermer sur lui-même, s'ouvrir aux autres. Et tout ça grâce à ses actions.
Ouais, je pense que t'as totalement raison.
Bon, nous voilà à la fin. Tu veux conclure, je suppose ?
Alors oui, je vais faire une petite conclusion rapide. Donc, ce qu'il faut retenir de ce reportage, c'est qu'il existe des enfants, donc des mineurs sans parents, qui arrivent en Suisse ou qui tentent d'y entrer. Ces mineurs, ils représentent une petite partie des réfugiés en Suisse, mais il faut se rendre compte que c'est une situation pas normale et qui ne doit pas être prise à la légère, mais qui demande une attention particulière. Ces mineurs sont avant toute chose des enfants, il faudrait toujours les voir comme ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas tout le temps. En théorie, ces enfants sont pris en charge à leur arrivée et sont accompagnés jusqu'à leurs 18 ans. Dans les faits, comme on l'a vu, c'est plus compliqué. L'âge n'est pas forcément certain et l'autonomie est difficilement atteignable à 18 ans. Quant à leur intégration dans la société, sachez qu'elle n'est pas facile et que vous pouvez l'améliorer, vous.
Je me pose une question là. Qu'est-ce que la régie va nous lancer comme musique ?
Et je crois que c'est Aim for the Weekend de Coldplay.
Bonne écoute.
I was
il est l'heure à présent de passer à ma quatrième et dernière partie de ma chronique suivie.
On est déjà à la toute dernière partie de notre émission. C'est triste quand même, on donne tout pour cette dernière étape, Lucas.
C'est parti alors.
De quoi on va parler alors ?
Alors, on reste toujours dans le sujet du sport de haut niveau pratiqué par la jeunesse en Suisse. Et pour récapituler un petit peu, nous vous avions présenté lors de mes trois dernières chroniques suivies les bons points d'un sport de haut niveau quand un athlète possède une vie saine autour de lui. Inversement, les aspects négatifs du sport de haut niveau ont également été présentés.
Nous avions également abordé le sujet des institutions scolaires qui permettent à nos sportifs d'élite à la fois de continuer à performer dans leur sport et à continuer leurs études.
Eh ben, je peux bien voir qu'il n'y a pas que Mathéo qui possède une bonne mémoire ici. Hein. Mais bon, bref, pour cette chronique, je me suis intéressé à qu'est-ce que pouvaient aussi faire les jeunes sportifs d'élite si ceux-ci ne voulaient pas continuer à faire des études après leur école obligatoire.
Bah oui, c'est vrai, ils ne sont pas forcément obligés de suivre des études. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors ?
Ils possèdent les mêmes possibilités que chaque étudiant qui a terminé son école obligatoire en fait. C'est-à-dire soit poursuivre des études, soit faire un apprentissage. Tout cela bien évidemment en pratiquant son sport en parallèle. Je me suis intéressé alors à comment fonctionnait la faction apprentissage-sport pour cette chronique.
D'accord. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des points entre l'apprentissage et les écoles post-obligatoires ?
Alors oui, les critères d'embauche sont à peu près les mêmes que ceux des différentes écoles. Discipline, comportement exemplaire et fair-play doivent alors être de rigueur. Les jeunes sportifs se doivent également d'informer leur entreprise formatrice de leur programme.
Est-ce qu'il y a aussi des contradictions toujours par rapport à des études gymnasiales ?
Pour la plupart des procédés, les démarches sont à peu près les mêmes. Je dirais qu'il y a une chose fondamentale en fait qui sépare les deux voies. La responsabilité. En effet, les jeunes apprentis se doivent d'être présents pour leur apprentissage. Ils se doivent également d'informer leur entreprise formatrice de leur programme, car les entreprises ne vont pas proposer un programme. Contrairement à des programmes donc justement qui sont préétablis par les institutions sport-études. Une autre différence est que l'apprenti sportif est tenu par un contrat d'apprentissage qui précise également les différentes attentes mutuelles autant dans le sport que dans le travail. La dernière chose importante est aussi est que les sportifs représentent également une entreprise en suivant cette voie-là. Ils ne doivent par conséquent en aucun cas salir l'image de celle-ci.
D'accord. Eh bien, tout cela était très intéressant, hein ?
Bon, on arrive à l'outro de cette,
ouais, attends, de cette émission. Je dois mettre mon micro, je sais pas si t'as vu mes cheveux, je fais un peu de bruit. Bon, c'est déjà la fin de la dernière émission.
Que de nostalgie.
Que du plaisir.
Donc, on va tous en même temps, mesdames et messieurs.
On remercie tous les auditeurs.
Bien sûr.
Merci, tout le monde en fait qui nous a aidés.
Merci.
On va pas faire des remerciements trop longs. Puis voilà, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter.
Bah franchement, c'était cool de travailler avec vous, les gars. Ouais, c'était génial.
J'espère surtout que les auditeurs ne nous manqueront pas trop, surtout.
Ouais,
deux fois sur tout.
Ça devrait aller, je pense, non ?
On verra.
Et de toute façon, on peut toujours nous retrouver sur Radio Bus, hein ?
C'est sûr. Nous resterons gravés dans l'internet.
Dans les mémoires,
je crois.
Donc, qui sont notre blog radiobus.fm, les gars.
On espère tous que vous avez passé un de très agréable moment à nous écouter.
Ciao.
Ciao.
Au revoir.
Des reportages inédits,
des chroniques fantastiques,
de l'actualité et de la bonne musique.
Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, sur Radio Far West.